lecture qui nous accompagne ce matin. Je lis dans Marc au chapitre 11. Après son entrée triomphale à Jérusalem, sur un ânon, le jour des rameaux. Jésus partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà tard. Le lendemain, au moment où il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla regarder s'il y trouverait des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Que personne ne mange plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent ensuite à Jérusalem. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Puis Jésus leur enseigna ceci. Dans les Écritures, Dieu déclare « On appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, ajouta-t-il, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprirent cela et ils cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. En effet, ils avaient peur de lui parce que toute la foule était impressionnée par son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville.
Alors encore deux autres textes qui se situent dans le chapitre 13 de Marc. On est toujours dans Marc, hein, vous savez pourquoi. Comme Jésus s'en allait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui dit « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Comme il était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André, à l'écart, lui demandèrent « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe que tout cela va finir ?» Et un peu plus loin, verset 24, « Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et de sa gloire. Alors il enverra les anges, et des quatre vents de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus. » Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
Bonjour à chacun. C'est une joie de nous retrouver pour le culte. L'évangile de Marc a été proposé comme thème central pour les cultes de ce printemps. Ceci dans le but de mieux connaître et faire connaître notre Seigneur, notre Sauveur Jésus. Selon le plan d'étude proposé, Marc a été divisé en 6 sections et ce dimanche nous nous pencherons principalement sur les chapitres 11 à 13 qui forment la section 5. Toutefois, en un seul culte, parler de plusieurs chapitres, ça voudrait dire, nous en aurons pour faudra sauter le repas de midi, faudra sauter la sieste. Mais non, mais c'est pas mon intention de vous imposer cela. Au chapitre 10 de l'évangile de Marc, nous voyons Jésus qui traverse Jéricho. Il prend résolument le chemin de Jérusalem. C'est la dernière fois que Jésus traverse cette ville de Jéricho. C'est là qu'il rencontra le publicain Zachée, qui reçut Jésus dans sa maison avec joie. Mais ce matin, c'est Jésus qui nous reçoit dans sa maison et veut nous remplir de sa paix et de sa joie. À la sortie de Jéricho, alors que Jésus prend le chemin de Jérusalem, sachant très bien ce qu'il attend dans cette ville, c'est aussi la rencontre avec l'aveugle Bartimée. Puis cette longue montée vers Jérusalem, vers la cité de David. C'est 27 kilomètres de route ou de cheminement aride. Et nous savons que, selon la parabole, ce parcours était souvent animé par des brigands et des bandits. C'est à la sortie de cette ville que Jésus rencontre l'aveugle Bartimée. Puis Jésus va donc monter à Jérusalem. C'est 1000 mètres de dénivelé. La ville de Jéricho se trouve à 240 mètres sous le niveau de la mer, alors que Jérusalem se trouve à 800 mètres d'altitude. Arrivé au mont des Oliviers, en face de la ville de Jérusalem, Jésus envoie deux de ses disciples dans cette ville avec comme mission de ramener un âne, un ânon. Suivra alors son entrée dans cette ville de Jérusalem, dans un débordement de joie et de réjouissance. C'est ce dont nous avons parlé il y a 10 jours, une semaine, le jour des rameaux. Ce récit de l'entrée de Jésus dans Jérusalem m'a fait penser à une autre scène qui s'est passée aussi à l'entrée de cette ville, mais dans les années 1918-1919, lorsque les troupes britanniques du général Allenby ont repris Jérusalem et la Palestine, qui à ce moment-là était sous le contrôle des Turcs. À cette époque, la coutume voulait qu'un chef militaire qui fait son entrée dans une ville conquise le fasse sur son cheval. Or, à la surprise générale, le général Allenby, au moment d'entrer dans cette ville de Jérusalem, mit pied à terre. Et bien sûr, on lui en demanda la raison. Et il répondit, « Je ne rentrerai pas dans la ville sainte sur un cheval alors que mon Seigneur, le Christ, lui est monté et rentré dans cette ville. Dans son humilité, il est rentré sur un âne, sur un ânon. » Et certainement, c'était un beau geste de ce chef militaire. Et aujourd'hui, son nom rappelle un pont qui sépare justement Israël et la Jordanie. Un pont qui porte le nom du général Allenby. Mais revenons sur cette journée des rameaux que Jésus termine avec ses amis à Béthanie. Le lendemain matin, en quittant Béthanie, il nous est dit que Jésus eut faim. Ça peut nous paraître étrange. Jésus eut faim. Et voyant un figuier, il s'en approcha dans l'espoir d'y trouver des fruits. Mais il n'y avait que des feuilles. Jésus alors prononça ces paroles que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Parole de jugement qui n'échappèrent pas aux disciples. Le lendemain, passant par le même chemin, Jésus et ses disciples, ils virent que le figuier était complètement sec jusqu'à la racine. Suite à l'étonnement des disciples, Jésus les exhorta à avoir foi en Dieu jusqu'à transporter des montagnes. Et ne jamais douter, contrairement aux chefs religieux qui, alors que Jésus est dans le temple, mettaient en doute son autorité. De quel droit fais-tu ces choses? Qui t'a donné autorité pour le faire? Face à l'arrogance et l'incrédulité des chefs religieux, Jésus mettra en parallèle la générosité d'une pauvre veuve. Jésus était assis en face du tronc réservé aux offrandes. Je ne sais pas s'il le sera aujourd'hui encore. Jésus, en face du tronc, observait les gens déposer leur offrande. Et il vit le geste de cette pauvre femme veuve et il fit remarquer aux disciples que cette femme avait donné plus qu'aux tous, parce qu'elle avait donné de son nécessaire vital, alors que tous donnaient de leur superflu. Et Jésus saisit cette occasion pour mettre en garde tous ceux qui l'écoutaient contre les maîtres de la loi qui aimaient à se promener en longue robe et recevoir salutations et honneurs sur les places publiques et à prendre les premières places dans la synagogue. Malgré leur longue prière, pour se faire remarquer, dit Jésus, ils seront jugés plus sévèrement. Dans le temple, Jésus continuait d'enseigner la foule sur divers sujets et parfois au moyen de paraboles. Un jour, se rendant au temple, Jésus fut consterné en voyant le trafic qui s'y faisait dans ce temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. « Ma maison est une maison de prière pour tous les peuples. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Fâché, très fâché, les chefs des prêtres cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. C'est alors que Jésus raconte la parabole des méchants vignerons. Méchants vignerons, moi j'ai été vigneron dans mon jeune âge. La vigne, tout comme le figuier dont on a parlé tout à l'heure, sont et restent une image du peuple d'Israël. On a vu ce figuier qui ne portait pas de fruits, et l'on reparlera de ce même figuier tout à l'heure, mais alors signe de la fin des temps. Jésus raconte, un homme planta une vigne, il l'entoura d'un mur, creusa un pressoir, bâtit une tour de garde et la ferma à des ouvriers vignerons. Au moment de la récolte, cet homme envoya son serviteur pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons ont battu ce serviteur et le renvoyèrent à vide. Un deuxième puis un troisième serviteur furent traités de la même manière. Alors le maître envoya son propre fils, convaincu que lui serait respecté. Or, lorsque les vignerons virent le fils, « Voici l'héritier, tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ainsi fut fait. « Que fera le maître de la vigne ?» demanda Jésus. « Il viendra et fera mettre à mort les méchants vignerons. » Parole de jugement. Et il confiera la vigne à d'autres vignerons. Chers amis, ne sommes-nous pas ces autres vignerons à qui la vigne a été confiée? Or, cette vigne va-t-elle porter des fruits et de bons fruits pour notre maître, pour le Seigneur? Quelles devaient être les pensées de Jésus en racontant cette parabole, qui était ce que lui allait subir, allait vivre, lui la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs? Comprenant que cette parabole les concernait, les chefs des Juifs cherchaient une fois encore le moyen d'arrêter Jésus. Toutefois, dans le temple, Jésus continuait d'enseigner et le peuple l'écoutait avec beaucoup d'attention, car Jésus enseignait avec autorité et sagesse. ce qui irritait les pharisiens et les docteurs de la loi, d'autant plus que Jésus mettait la foule en garde contre l'enseignement tendancieux de ceux-ci. Un jour, alors que Jésus sortait du temple avec ses disciples, l'un d'eux lui fit remarquer la beauté de l'édifice. C'est alors que Jésus dit à ses disciples, « Le jour viendra où il ne restera pas pierre sur pierre, où tout sera détruit. » J'aimerais donner un petit rappel concernant le temple. Le premier temple fut construit sous l'autorité du roi Salomon, et ce temple fut incendié et détruit lors de l'invasion des Assyriens en 587. Le temple fut reconstruit sous l'autorité de Zorobabel lors du retour de la captivité, environ plus de 500 ans plus tard. Ce fut le deuxième temple appelé Temple de Zorobabel. Et ce temple, après avoir subi diverses occupations par des troupes étrangères, fut restauré par le roi Hérode. C'est ce qu'on appelle le troisième temple, ou temple d'Hérode. Ces travaux furent entrepris 20 ans avant la naissance de Jésus. Et ce fut ce temple que Jésus connut et que les disciples admirèrent. Et ce temple-là fut détruit à son tour, incendié par un soldat romain en l'an 70 de notre ère, lors de la prise de Jérusalem par Titus. Conformément à la prophétie de Jésus à ses disciples, il ne restera pas pierre sur pierre, mais tout sera détruit. L'annonce qu'avait fait Jésus concernant la destruction du temple bouleversa profondément les disciples. Ce fut un choc pour eux. Ils demandèrent à Jésus, « Quand cela se passera-t-il ? Et quel signe indiquera le moment où toutes ces choses doivent arriver. » C'est là que Jésus, parlant alors de la fin des temps, reprend l'exemple du figuier, image d'Israël. Dès que la sève circule dans ses branches et que ses feuilles paraissent, vous savez que la belle saison est proche, que l'été est proche. Ainsi, Israël, sous l'image du figuier, est devenu signe des temps pour nous. Depuis 1948, année où Israël fut reconnu comme nation par l'ONU, il y a 65 ans, la sève circule dans ses branches et les feuilles poussent, signe de la réalisation prophétique. C'est l'heure pour l'Église de Jésus-Christ, de relever la tête et d'être attentif et fidèle. Marc 13, les versets 26 à 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de gloire et une grande puissance. Il enverra ses anges aux quatre coins de la terre pour rassembler ses élus d'un bout du monde à l'autre. Chers amis, Jésus revient bientôt. Dans l'Apocalypse, Jésus dit, « Je suis l'étoile brillante du matin. » Et cette étoile, elle brille déjà. Il enverra ses anges, nous l'avons vu, pour rassembler ses élus. Et Jésus revient bientôt. Levons la tête et veillons. Viens, Seigneur Jésus, que ton règne vienne. C'est la prière de l'Église fidèle. C'est notre prière. Viens, Seigneur Jésus. Et Jésus répond, je viens bientôt. Amen. Amen. Nous chanterons maintenant le numéro 375, Acclamons Jésus.